Bonjour, je suis ravie d'être à nouveau sur les ondes de Diva FM pour mon émission hebdomadaire Alice et vous. Le thème de ce jour, vous en avez déjà certainement entendu parler sans peut-être savoir ce qu'il en est. Aujourd'hui, nous allons parler du complexe d'Œdipe. Et c'est pour cela qu'aux côtés de Jennifer, qui m'accompagnera comme chaque vendredi de 17h à 18h, nous allons aborder ce concept fondamental de la psychanalyse.
Bonjour Alice, toc toc toc, je suis là, on pousse la porte du cabinet. Allez, je vais faire un petit sourire avant qu'on commence cette émission avec Alice et vous. Donc Alice, votre psychanalyste qui est avec nous durant une heure pour aborder chaque semaine un thème bien précis comme celui d'aujourd'hui, le complexe d'Œdipe. Et vous allez voir quelque chose de très très intéressant encore que nous allons aborder avec toute sa complexité mais qu'on va dénouer tout au long de cette heure et sans plus tarder, nous allons le faire. Et si voilà, je suis là, c'est pour en même temps généraliser un petit peu les questions qui sont les vôtres. Je vais essayer d'en faire cela au maximum. Alors Alice, comme d'habitude, on va commencer par une introduction en définissant justement qu'est-ce que c'est le complexe d'Œdipe et je vous laisse faire.
Alors, cet Œdipe-là, donc ce fameux complexe, se déroule entre en moyenne les 3 ans et les 6 ans de l'enfant. Même si on dit qu'aujourd'hui, ce complexe a tendance à un petit peu se décaler, car les stades, on va dire, de l'évolution psychosexuelle des enfants sont en train d'évoluer. Dans les grandes lignes, avant de décortiquer, on va dire, ce qui se joue exactement, l'Œdipe, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'un enfant aille désirer inconsciemment son parent du sexe opposé. Vous savez, cette période où la petite fille, peut-être qu'à 4-5 ans, se dit être amoureuse de son papa ou de ce petit garçon qui dit vouloir se marier avec cette maman, ça correspond, on va dire, à ce stade précisément.
Oui, quand le moment où on adule les enfants, adule un des parents, et c'est vrai que on le prend de manière assez mignonne, d'affection. On n'est pas en train de se dire que c'est quelque chose forcément dans l'esprit des parents qui peut arriver, mais pourtant c'est si important dans le développement à la phase de l'enfant.
Tout à fait. Alors, comme vous le dites, on le prend d'une façon mignonne, ça fait plaisir quand on notre fils, notre fille qui a un tel regard pour nous. Mais un peu aujourd'hui, je vais un petit peu être désobligeante et vous contrarier.
Elle va casser le mythe.
C'est ça, en expliquant qu'il est important de cadrer l'enfant à ce moment-là.
De cadrer l'enfant. Alors, ce complexe d'Œdipe, vous dites, donc c'est le développement qui apparaît à ce moment-là entre l'âge moyen de 3 et 6 ans. Donc, ça se caractérise comment au niveau de l'enfant ? Mis à part le fait d'aduler, comme vous disiez, un des deux parents, qu'est-ce qu'on voit au niveau du changement du comportement de l'enfant ?
Alors,
qui nous dit qu'il est à ce stade-là.
Hein. D'accord. Avant d'en aller là, j'aimerais bien juste pas revenir sur pourquoi on l'appelait Œdipe et à quoi ça fait référence.
Ah oui, ça je veux bien savoir. Oui.
Alors, je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler du mythe d'Œdipe roi, à l'époque, de la mythologie, on va dire, grecque, où Œdipe était un enfant qui avait été abandonné par ses parents, donc par le roi et la reine, car on avait prédit que cet enfant tuerait son père et qu'il épouserait sa mère. Donc ça, c'était complètement inentendable. Donc, suite à cela, les parents avaient abandonné l'enfant. Donc, et finalement, ce sont des bergers qui l'ont recueilli. Et qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure de sa vie ? Ben, pensant être le fils du berger, il voulait retourner donc dans ce pays pour diverses raisons. Sur son chemin, il a croisé son père, qu'il a vraiment fini par tuer. Et par rapport à toute l'histoire qui se joue dans cette mythologie, il a fini finalement
par épouser sa mère.
Voilà.
Sans savoir qu'elle épousait son fils et vice-versa. Qu'il épousait sa mère.
Tout
donc,
à fait.
Pour ça qu'on appelle le complexe d'Œdipe.
Voilà, et c'est Freud en 1900, lorsqu'il a posé ce concept, a fait le lien, on va dire, avec ce mythe, parce que c'est vraiment l'idée, on va dire, la symbolique, c'est d'aller oser tuer son père, entre guillemets, pour se construire soi-même.
D'accord.
Il y a de ça aussi qui se joue dans cet Œdipe.
Ça paraît bizarre quand même de dire quelque chose, c'est déjà cruel dans l'idée, de dire de tuer un des parents pour se construire soi-même, ça veut dire voilà, anéantir une existence, c'est pas quand même ce qu'on imagine, Alice, c'est pas une réalité. Même si on pourrait le dire au sens figuré, d'écraser un parent pour se développer soi-même, non.
Tout est inconscient, c'est vraiment l'idée de se délier de ses parents pour pouvoir s'allier et se relier à qui nous sommes nous-mêmes.
D'accord. Donc c'est quoi en fait? Parce que là, ce qui me paraît un peu compliqué dans l'explication, c'est de dire le complexe d'Œdipe, on comprend d'où ça vient, de quelle légende, que Freud justement a tant parlé, on le connaît par rapport à ce complexe d'Œdipe, mais de dire qu'en plus ça se développe, voilà, ça se joue dans l'âge de 3-6 ans. On se dit un enfant n'a pas cette conscience-là.
Ah non, comme je vous dis, tout est inconscient. C'est un concept psychanalytique, mais qui est complètement inconscient. C'est-à-dire que lorsque je vous parlais du désir, ça peut être choquant, de ce désir inconscient, voilà, de vouloir être avec son père ou avec sa mère. Donc c'est D'accord. vraiment de ça dont il s'agit.
Alors c'est pas obligé fille, garçon, fille, papa et petit garçon, maman, c'est pas obligé que ça aille forcément dans ce sens-là.
Alors, comment ça se passe? Il y a cet Œdipe simple, après je vais détailler, qui fait effectivement qu'à la base, le garçon va désirer sa mère et que la petite fille va désirer son père. Et ensuite, il y a ce fameux Œdipe inversé où l'enfant va désirer, bien sûr inconsciemment, le parent du même sexe pour, on va dire, traverser de façon le mieux possible ce fameux complexe d'Œdipe.
D'accord.
Alors, quand est-ce que ça survient, justement, par rapport à votre question, ce complexe d'Œdipe, pardon, arrive juste après la période de début d'identification sexuelle. C'est-à-dire qu'avant l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, on va situer à peu près avant l'âge auquel les enfants vont à l'école, l'enfant n'a aucune notion de genre sexuel. C'est-à-dire, voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire être un garçon ou une fille.
Oui, il n'y a pas la différence, on va dire, de la nature entre, je vais le dire, un zizi ou une petite chouchoune.
C'est
ça,
tout à fait.
L'enfant l'ignore complètement.
C'est ça, en psychanalyse, on appelle ça le phallus, que le garçon possède ce fameux phallus.
D'accord.
Et qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants se retrouvent entre eux, avec leur expérimentation, on va dire, d'enfant, se rendent compte que le garçon a cette partie que la fille n'a pas. C'est la catastrophe pour la fille. Parce que la fille va penser qu'il lui manque quelque chose.
Parce que attendez, Alice. Là, ça se fait tout ça entre les 3 et 6 ans? Bon, déjà, moi, je ne m'en rappelle pas personnellement.
Non, puisque c'est inconscient. Je veux dire, comme je dis, on est constitué, le cerveau est constitué pour justement que ça tombe, on va dire, entre guillemets, dans les oubliettes. Parce que ce n'est pas entendable et ce n'est pas acceptable en tant qu'adulte d'oser penser ça et d'oser dire ça, bien évidemment.
Mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas là à se poser la question de dire « Ah, mais il nous manque quelque chose, une partie qui fait que je serai complet, en quelque
c'est
sorte. »
C'est ça, d'accord. Quelque part. Donc, quand la petite fille arrive à peu près à l'âge de 3 ans, arrive ce moment où elle a l'impression que on lui a volé quelque chose et qu'il lui manque quelque chose. Donc, la petite fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer par détester sa mère. Parce que la petite fille, étant de sexe féminin, comme sa mère, va inconsciemment en vouloir à sa mère parce qu'elle va penser que sa maman lui a menti. C'est quelque part, maman, tu l'as toujours su, mais tu ne me l'as jamais dit. C'est inconscient. Ce qui fait que quelquefois, à partir approximativement de cet âge-là, il se peut, en fonction de l'évolution d'où en est l'enfant, qu'on peut être un peu en conflit aussi avec notre fille, lorsqu'on est une maman. Parce que la petite devient un peu plus autoritaire, la petite devient un peu plus dans la confrontation, l'opposition, déjà par rapport avec cette maman, parce que inconsciemment, elle pense que sa maman ne lui a pas dit la vérité.
Mais alors, c'est assez fou, hein, parce qu'on est tout dans l'inconscient, on parle d'une réalité, hein,
c'est
d'accord
ça.
Mais pour contrer cette idée, on n'est pas dans la réalité, on ne va pas dire, admettons, en tant que maman, notre fille, tu sais, si tu n'as pas cette partie du corps comme papa,
bien sûr que non.
On
ne
va pas faire ça, on est bien d'accord, Alice.
Non,
mais parce que je préfère mieux quand même qu'on soit...
Alors, il y a la question de la sexualité qui va arriver, qui va être abordée par notre enfant, qui sera faite de façon consciente sur des bases, on va dire... complètement saine et naturelle.
Oui, mettons sur une question, pourquoi papa il a un zizi ou mon frère ou peu importe, des choses comme ça, vous voulez dire?
Tout à fait, voilà.
D'accord.
Mais cette question de désir inconscient, bien évidemment, ne sera jamais abordée.
D'accord.
Voilà. D'accord. Donc arrive cette première étape où cette fille, petite fille, se rend compte qu'elle n'a pas le phallus, donc la petite fille est en colère, et finalement, Qu'est-ce qui se passe aussi? Ça, c'est une des explications psychanalytiques qui veut dire pourquoi nous, les filles, je parle nous parce qu'on ne sommes que des femmes sur le plateau aujourd'hui, nous sommes plus en capacité que les hommes à nous remettre en question. C'est parce que très tôt dans la vie, donc à partir de ce moment-là, bon, on doit se poser les questions de savoir pourquoi quelque part je ne mérite pas ou pourquoi quelque part je n'ai pas ce phallus et comment faire pour l'obtenir.
Ça paraît. Non, mais je vous promets, Alissa, vous me je suis stupéfaite de cette analyse parce qu'on se dit que si tôt, comme ça, entre 3 et 6 ans, que l'inconscient arrive déjà à poser tant de questions.
Ah oui, de toute façon, j'ai envie de dire, dès lors que nous naissons, dès qu'on arrive sur Terre, notre inconscient, veut dire, se met en place parce que l'inconscient, lui, est régi aussi par tout ce qui est pulsionnel.
Mais comment on le prouve, ça, Alice, quand même, tout ça? Parce que ça paraît fou de se
dire... C'est une théorie, c'est un concept, on va dire, qui peut être bien évidemment critiqué par les personnes qui ne sont pas psychanalystes ou par d'autres points de vue, on va dire, du même domaine. Mais il y a eu des études et des observations qui ont été faites et qui ont pu être avérées, que l'on peut constater aussi de nos jours. Parce que la théorie, c'est une chose, ça date de 1900. Mais lorsqu'on a ces explications et que l'on a en face de soi, on va dire, ses enfants ou ses patients ou autres, on se rend compte que oui, ça a un sens. Et on voit surtout l'impact dont je parlais tout à l'heure, que ça peut avoir dans nos vies d'adultes.
Alors justement, on va faire cette transition, Alice, puisque vous en donnez l'occasion. Donc cette construction, ce questionnement qui existe entre, voilà, on se dit la moyenne d'âge à peu près entre 3 et 6 ans, que vous disiez, par exemple pour une petite fille qui se dit « pourquoi je n'ai pas ce phallus », etc. Donc quelle est l'importance de ce stade dans la vie de l'enfant et d'un adulte, après, pour plus tard.
En fait, ce stade est très, très important parce que cette évolution sexuelle permettra à l'enfant d'accéder à ce qu'on appelle le tabou de l'inceste. Justement, de ne pas franchir les limites incestueuses, incestuelles au sein de la famille.
C'est vraiment, pour dire, l'importance de cette phase dans l'enfance entre les 3 et 6 ans, l'aboutissement, la construction, c'est surtout pour ce sujet-là, donc de l'inceste envers l'un des parents.
Tout à fait. Il y a cette notion d'inceste et cette notion d'identification sexuelle. Finalement, moi, étant fille ou garçon, est-ce que j'aime les filles ou les garçons ? Les filles et les garçons. Et ça permet aussi de se positionner par rapport à cela.
D'accord, et aussi de se dire que tout simplement, on ne peut pas se marier avec papa ou on ne peut pas se marier avec maman. Donc tout ça, ça met vraiment en place toute cette structure, cette base, ces fondations pour l'enfant dans sa vie future.
C'est ça. Alors si je peux vous l'expliquer en d'autres termes, il peut être dit que l'Œdipe est une crise de croissance vécue par un enfant d'environ 4 ans au cœur de la relation avec ses parents.
D'accord. Et plus.
C'est-à-dire que on a cet enfant qui va vivre avec ses adultes, qui va voir, qui va ressentir ce qui se passe avec ses adultes, et pour prendre ce qui lui paraît, prendre sa juste place d'enfant, va se positionner justement, va essayer d'être peut-être comme papa ou comme maman. Pour être comme eux, et justement là, c'est à nous les adultes à ce moment-là de leur faire comprendre, non. Toi, tu es un enfant. Tu ne veux pas être à la place de papa ou de maman.
D'accord. C'est presque quand on voit des enfants dans le comportement vouloir presque être le papa ou la maman, de donner des ordres, de un petit peu faire l'adulte en quelque sorte. C'est bien ça, dans leur comportement. Et si à ce moment-là, quand je dis recadrer, c'est peut-être le mot, il est un peu fort, mais de repositionner l'enfant justement à sa place d'enfant, justement, là, c'est l'importance de le faire. Pourquoi, dans le cas où ça ne se ferait pas, qu'on aurait la maladresse de pas recadrer l'enfant et de le laisser un petit peu dans cette position.
Le problème, c'est que l'enfant va rester dans le fantasme, c'est inconscient, qu'il peut accéder à son père ou à sa mère. Après, jusqu'où il ira, on va dire, dans ses comportements, qu'est-ce qu'il y aura d'incestueux, d'incestuel vis-à-vis de ses parents, et est-ce qu'il va surtout pouvoir se décoller de ses parents pour vivre après lui sa propre vie d'adulte?
D'accord. Ça pourrait être par exemple quoi, sans parler de la pire des choses qui puissent arriver, de l'inceste en tant que tel, mais ça pourrait être quoi, trop d'identification par exemple à l'un des parents, et du coup trop fusionnel aussi, de pas pouvoir s'en détacher quand dans sa vie future, dans sa vie d'adulte.
Aussi, vous voyez, après qu'est-ce qu'on peut trouver comme problématique œdipienne? admettons, c'est à un moment donné, pourquoi dans ma vie d'adulte, je me retrouve que dans des relations triangulaires ? Pourquoi peut-être moi en tant que femme, je ne suis attirée que par des hommes qui sont déjà pris, qui sont déjà en couple ?
Donc les relations triangulaires, c'est dans ce cas-là, de dire moi, placée en tant que maîtresse ou amant.
Je rejoue peut-être l'Œdipe.
Avec une personne qui est déjà en couple.
Tout à fait, ça peut être ce type d'exemple.
Ah oui, j'aurais pas imaginé ça, que vraiment on construit notre vie sentimentale qu'à travers des relations comme celle-là.
Ça peut. Voilà, comme je dis, d'accord, tout est multifactoriel, mais cette phase-là est vraiment phare, parce qu'effectivement, aussi ce qui se passe au niveau, comme je parlais tout à l'heure, d'identification sexuelle, je veux dire, bien évidemment, chacun a sa sexualité, voilà, homosexualité ou non, genre, peu importe, l'essentiel c'est d'être bien dans sa vie, dans sa peau, mais il y a aussi, on va dire, des formes d'homosexualité œdipienne que nous, on peut repérer en tant que psychanalyste, c'est-à-dire que peut-être que si la personne avait vécu cette période-là, cette transition de façon différente, elle aurait pu être hétéro. Mais comme ça ne s'est peut-être pas passé comme ça aurait dû, admettons pour une fille, cette fille va être peut-être plus attirée par les femmes sexuellement parce qu'elle est restée bloquée à ce stade-là de l'Œdipe. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On a donc cette petite fille au préalable qui va désirer son père. Elle est trop mignonne avec son père, elle est adorable, elle fait plein de bisous, c'est la période où elle rejette un peu la mère. Vous savez, ces périodes aussi où les enfants se mettent entre les deux parents pour les séparer, où on enlève la main, on n'aime pas la période où ils font des bisous.
Parce que
voilà, ça correspond à cette période-là. Et une fois que l'enfant aura compris que la petite fille, elle n'aura pas accès à papa, c'est-à-dire, moi je suis amoureuse de toi, papa, je me marie avec toi, on va dire. La meilleure des réponses, c'est de dire, non, ma chérie, voilà, je t'aime comme j'aime un enfant, toi tu m'aimes comme un papa, et papa, non, il est marié avec maman, ou papa est marié avec un tel, et jamais je ne pourrais me marier avec toi. Ce sont des choses qui sont à poser. Et quand, admettons, la petite fille se dira de cette façon-là, elle ne peut pas accéder à son père, c'est là qu'elle va faire le dit pas versé, c'est là qu'elle va se rapprocher de sa mère pour se dire, ok, si du coup il ne veut peut-être pas de moi en tant qu'enfant, je vais peut-être me rapprocher de maman aussi pour mimer maman, et peut-être qu'en mimant maman, il va vouloir de moi de cette façon-là.
Ah d'accord, c'est presque de prendre la place de la maman, mais se rapprocher le plus de l'identité et du comportement de sa maman, de se dire c'est là que j'aurai accès à mon papa.
C'est ça, parce que comme papa désire maman et papa ne désire pas, mais il faut peut-être que je sois comme maman pour que papa me désire.
D'accord. Ouh, ça fait... Alors, franchement, Alice, imaginez-vous, et puis vous êtes parents, vous aussi, qu'on n'est pas du tout en train de s'imaginer 30 secondes qu'il y a tout ça en jeu dans le développement de nos enfants. Nous, on est là en tant que parents, on fait tout ce qu'il y a à faire, on essaye de leur apporter la meilleure éducation, voilà, l'accès à l'école, à une vie voilà la plus équilibrée possible aux possibilités de chacun, hein, on est bien d'accord. Mais on n'est pas du tout en train de s'imaginer...
Non,
ça.
Tout à fait. C'est pour ça, comme je dis très souvent, c'est très
on
dommage.
On veut pas mal faire, quoi, vous voyez.
Non, c'est dommage qu'on n'ait pas, comme je dis, on apprend au fur et à mesure, qu'on n'ait pas une espèce de livret d'apprentissage pour comprendre ce qui se joue, et surtout pourquoi dans des phases de vie, nos enfants se réagissent, on va dire, de telle façon, quoi.
Ben oui, c'est ça. Alors, ça nous met presque une pression, Alice. Vous êtes en train de nous mettre une pression presque pour tous les parents qui sont dans des stades avec leurs enfants à ces âges-là. On se dit, est-ce qu'on va mal faire quelque chose qui influencera, parce qu'après c'est pas une question d'homosexualité, c'est pas une tare, on est bien d'accord, c'est pas ce qu'on dit du tout sur ce plateau, mais est-ce que la question de se dire, mon Dieu, si je fais mal moi quelque chose en tant que parent, ça aura une conséquence à vite éternam sur notre enfant? Oh là, quand elle fait la grimace comme ça, j'aime pas.
On va dire, dès lors que nous mettons un enfant au monde, on prend la responsabilité, on va dire, du devenir, de la construction de l'enfant.
Et oui, mais alors attendez, vous rendez compte qu'il faut qu'on ait un fascicule, Alice, quand même.
Après. Ah, mais c'est ce que je dis, ça fait des années que je me dis, il faut qu'on crée un fascicule pour vraiment comprendre ce qui se joue. Parce qu'effectivement, après, ce qui est aussi important dans cette phase qui arrive avant les 7 ans, quelque part, c'est comme si l'Œdipe, c'est quelque part la matrice de notre identité sexuelle. Voilà. C'est lors de cette période aussi que l'enfant éprouve pour la première fois, un vrai désir conscient, par contre, pour un garçon, pour une fille, voilà, pour un homme, pour une femme. Donc il y a ce côté conscient qui est là, qui vient le perturber, plus on va dire, ce point inconscient, de voir comment ça va se passer au sein du couple parental pour que l'enfant puisse, on va dire, lui-même avoir après sa propre identification pour pouvoir cheminer par lui-même au cours de sa vie.
Alors, si on est dans une... Admettons, on prend cet âge-là, cette moyenne entre les 3 et 6 ans, si on est dans une éducation monoparentale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un des parents, que ce soit le papa ou la maman, parce qu'il y a des choses qui ont fait que la vie, ça peut être une disparition, ça peut être une séparation, et le deuxième parent est inexistant dans l'éducation de son enfant, est-ce que du coup ça va engendrer des conséquences ?
En fait, l'enfant va s'arranger quelque part inconsciemment pour qu'il y ait un tiers, pour qu'il puisse faire son Œdipe. Il y a une histoire qui est très connue.
Ça peut se rabattre quoi alors avec les grands-parents ?
Ou une passion ? S'il n'y a pas de tiers, ça peut être une passion. Il y a une histoire très connue au niveau psychanalyse, un petit enfant qui avait été éduqué par sa maman qui passait son temps à coudre. Cet enfant a fait en quelque part son Œdipe avec la machine à coudre. Vous voyez, elle est venue remplacer l'homme ou la personne qui était censée être là et a pu ressentir différentes émotions vis-à-vis de cette machine. Comme sa maman passait du temps avec cette machine à coudre, quelque part, qu'est-ce qui se passe inconsciemment ? L'enfant voit sa mère désirer un ailleurs. Donc, là, qu'est-ce qu'on se dit ? Ok, pour qu'elle me désire moi, il faut que je devienne cet ailleurs ou que j'aille vers cet ailleurs.
Donc, en gros, c'est presque d'acquérir la passion, si on peut la dire ainsi, la passion ou on va dire l'occupation principale du parent qui était à ce moment-là, pour qu'on se dise, ça va être le moyen de me rapprocher du seul parent que j'ai, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire presque devenir couturier.
Oui. D'accord. Ou de rejeter, ou d'être à fond dans la couture, ou de rejeter. Et c'est vraiment important, cette notion de tiers, d'être trois dans cette relation.
Toujours dans cette...
Œdipienne.
Vraiment, c'est vraiment la relation, comme vous dites, triangulaire, parce qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une opposition d'un parent pour l'enfant.
C'est ça.
Ah, c'est vraiment, je vous promets, Calice, moi qui suis devenue parent, j'imaginais pas 30 secondes tout ça. Vous êtes en train de me tuer la tête, Alice.
Tout va bien se passer,
vous m'inquiétez pas. Tout va bien se passer, bon, ça va. Heureusement, je vous ai. Voilà, au pire, ça va pas, je viens vous voir.
Voilà. Et concernant aussi l'Œdipe inversé, c'est une question qu'on me pose beaucoup lorsque quelquefois on me parle de petits garçons. Il y a des périodes où, comme je dis, il ne faut en aucun cas empêcher un garçon de jouer à la poupée ou une petite fille de jouer aux voitures. On part du principe que rien ne veut rien dire, tout dépend déjà de l'environnement dans lequel on grandit. Mais vous voyez, dans cette phase œdipienne, quelquefois, le garçon a besoin de prendre cette position féminine aussi pour séduire le père. Il y a ça qui se joue. Ou effectivement, d'être dans un comportement hyper macho pour dire « moi, je refuse le féminin ». Donc ça peut vraiment se jouer de façons différentes. Et ce qui est vraiment très interpellant, c'est que dans cette phase d'Œdipe, quand il y a un coup papa, un coup maman, ça peut se jouer sur quelques jours ou quelques semaines. C'est-à-dire samedi, il peut détester maman, et finalement, si samedi, ce sera papa qui détestera, et vice-versa. Mais c'est constitutif et essentiel dans sa construction.
Alors si vous prenez aussi dans ce schéma-là, à ces moments, à ces âges-là aussi, si vous prenez, là où on disait, généralement, c'est la petite fille qui aime papa et le petit garçon qui aime maman. Et après, là, vous disiez aussi de la manière inversée. Mais quand on est, que le petit garçon est quasi fusionnel avec son papa pendant cette période d'âge et quand la petite fille est quasi fusionnelle aussi avec la maman. Et ça reste ancré sur ça. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Et elle rejette, l'enfant rejette... c'est un petit garçon, on rejette le papa et la petite fille la petite fille en fait adule la maman, le petit garçon adule le papa et donc rejette le parent opposé. C'est pareil, ce qu'on va dire l'inverse de ce que vous disiez en début d'émission. Et là, on est dans quel comportement dans ce cas-là ?
Alors, quand vous dites quel comportement, vous...
Quand je dis dans le comportement, parce que est-ce que c'est du coup, par rapport au complexe d'Œdipe, c'est quelque chose qui est normal ou comment ça va se...
Je veux dire, si on est dans une phase, on va dire, d'entre 3 et 7 ans, ou même un petit peu après, ça peut être une phase naturelle normale, tout à fait.
D'accord.
C'est de se dire... Bon, bien évidemment, quand on est parent, on n'est pas que dans le domaine, comme je dis, de psy, en disant qu'est-ce qui se passe au niveau psy. Bien évidemment, on voit ce qui se passe dans le quotidien, ce qui peut peut-être perturber l'enfant, qu'est-ce qui a pu le contrarier de façon consciente chez papa ou maman, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et une fois qu'on a fait le tour de la question, après, voilà, d'accepter de se dire « Ok, c'est vrai, il est dans cette phase-là, donc il faut qu'il la traverse. » Mais en aucun cas, le parent rejeté doit non plus, on va dire, être complice de ce rejet. C'est-à-dire que si la petite fille finit avec maman et rejette papa, le discours de la maman va être de dire « Ok, t'es pas... Bon, en ce moment, ben voilà, t'es pas très douce avec papa, mais papa, je l'aime, c'est quand même ton papa. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de ne pas rentrer dans la stratégie de l'enfant.
Oui, de pas entretenir, vous voulez dire, de pas entretenir, en fait, ce comportement-là, en l'acquiesçant, en disant, bon, ça va, écoute, c'est papa, mais bon, allez, c'est pas grave, allez, on passe à autre chose. De dire, voilà, sans non plus, je pense, être autoritaire et peut-être aussi dans la punition, de dire, voilà, tu as dit ça à papa, allez, t'es puni. Là, ça serait aussi un effet...
Bah, alors, ça dépend jusqu'où il va l'enfant.
Oui, on est d'accord.
Hein, si, voilà, si
de, non,
voilà.
Si c'est juste de dire, admettons, non, papa, je l'aime pas. En ce moment, c'est que toi, maman.
Si papa, je t'aime pas, ben, c'est pas grave. Au papa de répondre, ben, c'est pas grave, moi, je t'aime pour deux. Vous voyez, c'est difficile hein, quand on se le
parce
prend dans
voit,
la figure.
Oui, parce que j'imagine très bien des parents en train de vivre cette situation-là, d'entendre, je pense que c'est un crève-cœur, on est bien d'accord, de dire « moi, papa, je t'aime pas » ou « maman, je t'aime pas » et de se le prendre en pleine poire, je pense que c'est difficile, mais c'est surtout d'avoir le bon comportement. Parce qu'on pourrait dire « ouais, tu m'aimes pas, mais moi non plus, je t'aime pas ».
Et... surtout pas.
Ouais,
non mais je sais bien. Mais alors moi j'ai la question des.
Parce que je pense que ça doit arriver souvent.
Ah, j'ai
souvent,
de nombreux parents qui m'appellent aussi qui viennent me voir parce qu'ils comprennent pas, ils sont catastrophés. Bah comme vous dites, c'est un crève-cœur quand la première fois notre enfant nous dit ben je te déteste ou je t'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se remet en question. On dit qu'est-ce que j'ai pu faire pour que mon enfant ne m'aime
exactement.
Pas.
Exactement.
Alors partons du principe qui est vrai qu'un enfant ne peut pas ne pas aimer son parent.
C'est impossible.
Voilà, il aime son parent. C'est juste qu'à ce moment dans cette vie, il exprime. Et ce que je dis aux parents, même qui ne me comprennent pas, bah, je dis, moi, je leur dis tout le temps, bah, je suis contente que votre enfant exprime ses sentiments, ses émotions, si qu'il ne garde pas pour lui. Moi, je préfère que ce qu'il ressente de ressentiment négatif,
il
le mette à l'extérieur plutôt que ça reste gangréné à l'intérieur.
On est bien d'accord.
Au moins, c'est dit. Et la première fois ou la deuxième fois, ça fait mal, mais c'est de dire « Ok, tu m'aimes pas, mais moi, c'est pas grave, je t'aime quand même. » Ouais, c'est ce genre de dédramatiser, peut-être prendre avec de l'humour un autre ton pour dire « Mais c'est pas grave, t'as le droit de pas m'aimer, mais moi, je suis ton père ou je suis ta mère et je t'aime. » Ok. Vous voyez, c'est vraiment prendre le contre-pied.
Et de ne pas prendre au premier degré, c'est
ça,
surtout ça.
Parce qu'après, l'enfant aussi va rentrer dans la faille. S'il voit qu'il arrive à atteindre papa ou maman, alors là, c'est du gâteau pour lui. Mais oui, c'est-à-dire que dès quelque chose qui ira pas, dès qu'il y aura une colère ou... contre un petit peu titiller papa ou maman, hop, ben je maîtrise un petit peu mon environnement, je contrôle ce qui se passe, et ça, c'est pas bon non plus.
Oui, parce que l'enfant sera, même si c'est pas conscient forcément de dire que c'est un enfant, il est vicieux et il va jouer avec des choses. Non, mais c'est qu'il a vu qu'à un moment donné, ça va atteindre son parent, et de se dire, peut-être dès que je vais sortir ça, ça va avoir telle conséquence. Donc voilà. Donc surtout pas attention, voilà, d'avertir tout parent qui se prendrait ce joli compliment en figure. Mais ça arrive. Voilà, c'est des enfants. Mais c'est vrai qu'on peut. C'est impossible. Un parent, voilà, c'est un enfant, c'est impossible qu'il aime pas son parent. Franchement, vous avez beaucoup vu ça en psychanalyse, Alice, vraiment des enfants qui n'aiment pas leurs parents, c'est impossible.
Alors c'est dur ce que je vais dire. Ça m'est déjà arrivé que certains enfants m'en parle. Alors, est-ce que c'est autour
graves, non,
de l'adolescence? Après, il y a certains adolescents qui peuvent me le dire. Mais effectivement, il y a eu des événements, il y a eu des situations lourdes et dramatiques.
Voilà.
Ou encore, si à cet âge-là, on peut l'exprimer de cette façon-là, c'est qu'il y a des raisons. Là, on n'est pas dans l'inconscient. Voilà.
Oui, on
n'est
pas dans les 3-6 ans. Là, vous parlez de patients qui sont déjà peut-être dans des vies d'adolescents déjà.
Tout à fait.
Et qui expriment encore ce sentiment qu'ils n'ont pas envers leurs parents. Et là, je pense que oui, il y a d'autres choses qui sont rentrées en jeu. Mais voilà, surtout, voilà, ne vous formalisez pas si vous entendez...
Parce que l'enfant, plus n'est qu'émotion. Je veux dire, il se construit toute sa vie. Donc, il va sortir brutalement ce qu'il va ressentir psychologiquement, ce qu'il va sortir corporellement. Et puis, ça s'arrête là, ça va pas plus loin.
Il faut se dire qu'en même temps, si, comme vous disiez, je pense d'exprimer, c'est la meilleure chose, même que ça soit négatif et qu'on s'en prend plein la poire. Mais en même temps, c'est vrai que d'exprimer plutôt que de renfermer une émotion, c'est dévastateur, je pense, non
Complètement. Je veux dire, c'est comme je dis, ça gangrène, ça reste en nous, ça s'est figé. Et si après une émotion, ben, peut-être qu'on va avoir du mal à exprimer, qu'on ne va pas s'autoriser, qu'il peut avoir, on va dire, des dommages, voilà, au fur et à mesure de notre vie d'adulte.
Bon, alors ce complexe d'Œdipe qui, voilà, finalement... pour en revenir un petit peu, en faire le résumé, on n'imaginait pas ça du tout, encore moins quand on est parent, et moi que je suis en plein dans le complexe d'Oedipe, puisque moi, ma fille, elle a 3 ans.
Alors, elle démarre.
Voilà, elle démarre. Donc c'est vrai qu'on n'imagine pas tout ça, vraiment, donc on se dit donc, que c'est une phase qui est quelque part... donc normal, logique, naturel, qui intervient entre l'âge de 3 et 6 ans, qui va permettre de construire cet enfant. Alors, c'est vrai que ça laisse une lourde charge aux parents parce qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de bien, qu'est-ce qu'on va faire de mal, et ça va avoir des conséquences à vie sur notre enfant. Mais c'est à ce moment-là qu'en quelque sorte l'enfant se construit, Alice. Vous pouvez refaire le refait
tout à fait. Voilà. Comme je dis, au niveau de son identification sexuelle. C'est un stade important. Comme je dis, il va désirer pour la première fois, il va ressentir du désir, hein, pour un garçon, une fille, voilà. Et c'est vraiment d'oser, on va dire, le recadrer, le remettre à sa juste place d'enfant, voilà.
Recadrer entre parenthèses, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas des recadrements.
Ah, moi, quand je parle de recadrement, je suis pas forcément dans l'autorité malsaine et méchante. Je recadrer, c'est d'accord. Toi, tu es un enfant. C'est
replacer l'enfant là où
à
il
sa
est.
Juste place. Voilà. Tout à fait. Il a le droit de désirer, il y a son désir conscient, mais le travail du parent, effectivement, ça va être de surtout cadrer, comme je disais, son désir inconscient. Voilà, donc cette période où l'enfant peut être très porté sur papa ou sur maman. C'est sûr, ça fait du bien au papa et aux mamans, mais gardons en tête que ce n'est peut-être pas forcément favorable pour eux de le laisser dans cette place-là, de le repositionner en tant qu'enfant, pour dire oui, je t'aime en tant qu'enfant. Mais si voilà, on est en couple avec la maman, ben c'est ta mère que j'aime et que j'ai épousée. Non, je ne me marierai pas avec toi. Mais on ne le dit pas, bien sûr, sur un ton brutal oui. ou autre. On le dit fermement. Toi, tu auras un mari, tu auras un chéri, tu auras une femme que tu aimeras à ta façon, comme moi, j'aime maman. Voilà.
Mais c'est de mettre un positionnement, sans brutalité évidemment, mais voilà, de dire, de remettre à la position cet enfant, comme ça, ça sera son équilibre aussi pour lui. Et dans ce positionnement, parce que c'est vrai qu'on parlait de la relation triangulaire quand il y a donc l'enfant, le papa, la maman, on a vu qu'on pouvait aussi, dans cette relation triangulaire, la remplacer par une passion ou une occupation quand on a un développement dans un couple, on va dire dans un cas monoparental. Mais lorsqu'il y a aussi des frères et des sœurs, est-ce que ça peut aussi... converger vers...
Si un parent absent, le DIP, effectivement, peut se faire avec un frère ou une sœur.
C'est possible.
C'est possible. Après, ce n'est pas ce qu'on voit dans la plupart des cas, parce que de toute façon, on se construit identitairement. Déjà, avec ses parents, avec sa fratrie. Mais ça peut en faire partie si papa ou maman ou le conjoint, la conjointe est absente et dysfonctionnelle.
Arriver. C'est possible aussi.
Tout à fait.
Donc dans ce cas-là, admettons qu'on est donc toujours dans une situation monoparentale et que ça venait un petit peu rentrer dans une triangulaire avec un, on va dire, des frères ou sœurs. Là aussi, replacer l'enfant dans sa juste place.
Replacer tout le monde.
Je veux dire, voilà, ton frère, c'est pas...
Je veux dire, c'est aux parents et aux frères ou à la sœur, s'il le peut, selon l'âge qu'il a, de le replacer aussi. Parce que quelquefois, quand il y a des familles qui sont un peu...
Parce qu'on voit parfois des frères ou des sœurs prendre la place du parent absent.
C'est ça.
Que ça soit dans une perte tragique ou dans une absence complète. On voit parfois ces frères ou ces sœurs prendre la place du parent et en prendre aussi toute la charge, la responsabilité. Et c'est quelque chose aussi qui est pas bon. Que ce soit pour l'enfant qui soit à charge ou l'enfant qui...
C'est ça. Alors, j'ai bien sûr que sur le moment, l'enfant a quelqu'un à qui se confier, avec qui être proche. Donc, on va dire le côté conscient et on va dire du présent. Oui, ça peut l'aider, cet enfant. Mais effectivement, toujours repositionner en disant « Ok, je ne suis que ton frère ou je ne suis que ta sœur. » Voilà. Après, quelquefois, dans l'histoire de vie, on a la lourde charge, on n'a pas le choix de faire autrement. Mais ce sont des choses également qui peuvent arriver.
C'est des choses qui peuvent arriver.
Ouais.
Pareil, dans une situation où, on le voit dans notre société aujourd'hui, beaucoup de familles se reconstruisent avec des vies précédentes. Là aussi, si on arrive dans ces situations-là, c'est la même chose de toute manière.
C'est ça.
Même si c'est un beau-parent.
Il peut le faire avec le beau-parent. C'est possible aussi. Tout dépend de l'enjeu, tout dépend de comment ça se joue dans le couple. Vous voyez, ce qui est très important, c'est ce que l'enfant va capter du désir de son père ou de sa mère. Il va aller chercher... à être l'objet du désir de papa ou de maman, selon ce que c'est. Si c'est une personne, comme je dis, ça peut être une passion
aussi, donc ça peut être un beau parent. Surtout, expliquer aussi, pour ne pas rejeter, parce que souvent, c'est vrai que la place du beau parent est compliquée dans la vie qui se reconstruit autour d'une nouvelle famille, souvent parce que l'enfant peut rejeter ce beau parent pour justement être... l'occupation essentielle de son papa ou de sa maman. Donc là aussi, de replacer sans brutalité, j'imagine.
Ah non, hein, c'est de dire c'est mon amoureux ou c'est mon amoureuse, ou il est là ou elle est là, c'est comme ça et c'est tout. Voilà.
Et moi, je t'aime d'un amour qui est
différent.
Celui de...
Voilà, et puis, puisque je dis moi à tous les parents, le conseil, c'est de dire aux enfants, ben, t'es pas obligé de l'aimer, mais par contre, tu dois le respecter.
Alors, dans ce complexe d'Œdipe, Alice, tout à l'heure, on parlait de choses tragiques. Dans l'origine du complexe d'Œdipe, on parlait... de meurtre en quelque sorte. Est-ce qu'on en arrive à des choses comme ça? On le voit dans les faits divers où le complexe d'Œdipe est à tel point qu'on a vu des meurtres de parents par rapport à ça justement ou pas? Là je vais dans l'extrême hein,
on va dire,
de la curiosité.
Ça a pu arriver, mais c'est pas ce qui arrive le plus. On est plutôt alors dans des relations fusionnelles où un des deux parents est plutôt rejeté. C'est-à-dire que si on est éduqué qu'avec une mère ou avec un père, en aucun cas on laissera rentrer quelqu'un prendre une place différente. Mais là, on rentre dans la pathologie, on peut être dans la schizophrénie et autres après. Ça peut aller très très loin. Hein.
C'est, des cas assez heureusement rares et extrêmes, mais c'est vrai que ça pourrait arriver. Mais c'est vrai que quoi, le comportement vraiment, quand il y a un problème vis-à-vis de ça, c'est de quoi vraiment de mettre hors du cercle en quelque sorte, de rejeter un des parents. De dire, admettons, est-ce que par exemple ça peut être un fils envers sa maman qui a ses rapports fusionnels à tel point que même sa place quelque part c'est presque celle d'un mari plus qu'elle d'un enfant, et que du coup le père il est complètement mis
à l'écart. Oui, ça peut exister ça. Mais comme on dit, c'est, j'aime pas dire ça, mais c'est avec la complicité consciente ou inconsciente de la maman que cela se joue.
Et bien sûr.
Et quelquefois on se rend pas compte quand on dit ah non, je vais pas lui dire, je vais lui cacher certaines choses ou je vais protéger mon enfant. Oui, protégeons-le. Si l'autre parent est réellement dangereux pour la santé mentale et physique de l'enfant, mais quelquefois aussi, c'est d'être complice avec son enfant, c'est pas, on va dire, forcément bénéfique pour la construction de notre fils ou de notre fille.
Et pourtant, on voit tellement de relations fusionnelles qui se passent entre enfants et un des parents souvent, que ça soit maman fille, papa fille, ça peut. On voit parfois qu'il y a ce fusionnel, mais c'est vrai que on imagine quand même qu'il y a des conséquences sur la vie future.
On va dire, si on parle simplement en termes de relations amoureuses, ce sont des personnes qui, souvent, n'arriveront pas, on va dire, à se réaliser. C'est-à-dire, alors, ce qu'on dit dans la psychanalyse, c'est qu'ils n'arriveront pas à mettre en place l'organisation de leurs désirs. C'est-à-dire que dès lors qu'il y aura un risque de rencontre, un risque de réussir peut-être une relation, il y aura une espèce d'auto-sabotage où il y aura... tout ce qui a pu se passer dans ses relations avec ses parents, qui va venir se rejouer dans la relation. C'est-à-dire que lorsqu'on fait mal son Œdipe, on transfère sur notre partenaire nos craintes, nos attentes et les sentiments, vous voyez, qu'on pouvait éprouver envers notre père ou notre mère à l'époque.
D'accord.
Vous voyez,
ça peut se rejouer. Sur...
Et c'est ça, en fait, la problématique. C'est si... Bon. Alors, comment dire ça? Il me semble qu'il y ait très peu de personnes qui le passent réellement de la meilleure des façons, l'Œdipe. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut se régler. Si on ne le règle pas, je veux dire, à 7 ans, il y a des choses qui peuvent se rejouer au cours de l'adolescence, pour justement recadrer l'enfant et le repositionner. Et si, au terme de l'adolescence, ce n'est pas encore clair, selon la problématique, ça peut, on va dire, se régler grâce à une psychothérapie. Voilà.
Alors... Nous, Alice, on est parents, on veut tellement bien faire, on imagine tellement le mieux et les bons comportements pour nos enfants. À quel point on peut se rendre compte qu'on a failli à quelque chose ou on a raté, voilà, justement ce passage-là? Qu'est-ce qui pourrait nous mettre en alerte de dire qu'on a raté ce passage?
De voir à quel point peut-être notre enfant rejette l'autre parent. Si le parent est bien sûr bienveillant et équilibré. Hein.
Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord dans un cas, on va dire, normal.
Hein, voilà, c'est ça. Cadre sain.
Cadre sain. C'est-à-dire que, passer cette période-là des 3-6 ans à peu près, hein, on est d'accord, de dire que l'enfant continue à rejeter un des deux parents, et qu'on n'a pas réussi à remettre un cadre en disant « Papa, voilà, moi je l'aime, pati, pata », tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et de voir qu'on on gangrène au fur et à mesure que l'enfant avance dans l'âge et que cette situation ne s'inverse pas, là on se dit « Attention ».
Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer.
Et donc, ça peut être réversible ou ça peut s'améliorer ?
Selon alors, la structure de l'enfant, comme je dis, si on ne passe pas du côté de la psychose, c'est-à-dire si on ne tombe pas dans la schizophrénie, oui, dans, voilà, bien sûr que c'est réversible. Mais après, ce qui est compliqué dans tout ce que je vous dis, c'est que tout ce qui se met en place dans la construction identitaire d'un enfant va réellement se voir et se jouer dès l'âge adulte, et rarement avant. Parce que vous voyez, il y a donc cette phase, on va dire, d'avant les 3 ans, il y a cette phase-là de 3 à 7 ans, il y a ce qu'on appelle la période de latence qui a tendance à diminuer, c'est-à-dire qui correspond à peu près de 7-8 ans jusqu'à l'adolescence. C'est la période, on va dire, qui est plutôt calme au niveau émotionnel, au niveau, on va dire, hormonal. Et après, la crise d'adolescence. Et c'est une fois que l'enfant sera sorti de la crise d'adolescence, soit 18 ou 25 ans, que sa structure, on va dire, sera déterminée.
D'accord. Oui, ça fait... c'est des sacrées conséquences, hein, tout ça, quand même. Hein. Mais ce qui est fou, c'est que vous êtes en train de dire que malgré tout, ça a des répercussions, après plus ou moins graves, et voilà, c'est ce qu'on espère surtout pas grave, mais que malgré tout, ça peut, comme vous disiez tout à l'heure, sabotage sur des vies relationnelles, sentimentales, de dire qu'on s'auto-sabote parce qu'en fait, on n'a pas eu cet équilibre-là dans notre enfance, mais qu'on n'en a pas conscience.
Bien sûr.
Donc
que non.
Là, on doit venir... Si on voit qu'on est dans des telles relations, c'est-à-dire que quand vous dites saboter, quel exemple ça pourrait être de dire que à chaque fois, on commence à construire une relation, que tout va bien, le partenaire semble être bien, et qu'à un moment donné, c'est quoi ? C'est nous qu'on...
Oui, l'air de rien, on va construire un obstacle inconscient entre cette personne et nous. On va mettre en place des stratégies incohérentes de communication ou des comportements qui ne sont pas adaptés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être nos peurs et nos émotions qui prennent plus le dessus et qui se mettent entre la personne et nous, finalement.
Puisque, mais on n'en a pas conscience de ça,
non. Non, mais justement, c'est de par les répétitions de nos histoires de vie qu'on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, un autre exemple aussi qui est typique d'un, nous ce qu'on dit en termes psychanalytiques, qui est dû à un Oedipe qui est non réglé, c'est ce qu'on appelle, il y a donc le Don Juan. Okay, en psychanalyse, le Don Juan, ça va être l'homme qui va incessamment avoir besoin d'aller séduire les femmes sans passer à l'acte.
L'acte que vous, quand
sexuel.
Vous dites sexuel, hein.
Voilà, d'accord. C'est des hommes qui, malgré eux, sont tout le temps dans la séduction, parce que ça vient les rassurer, on va dire, consciemment et inconsciemment parlant. Hop, ils mettent la phase de stratégie, hop, ils séduisent et suivent. Une fois que la séduction marche, ils se sentent mieux. La pression redescend, mais la pression remonte. Et incessamment, ils vont être obligés de séduire. Après, il y a les Casanova qui passent à l'acte. Mais ces problèmes-là peuvent être résolus si on les identifie en tant que problème oedipien. Vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi, bon là, j'ai des histoires d'hommes en tête, où ces problématiques qu'on peut retrouver en couple, où finalement l'homme, en fait, quelque part, sa mère est une sainte.
Et toutes les autres
sont des prostituées. C'est-à-dire que quelquefois, on a des hommes, quand ils se mettent en couple, dès qu'ils font un enfant avec une femme, du coup, ne vont plus aller désirer sexuellement leur femme.
Mais d'autres.
Mais du coup, voilà, pour pouvoir décharger, vont aller désirer ailleurs.
Alors c'est vrai que ça, souvent, ça me fait rire ce que vous dites, parce que c'était souvent un comportement assez italien. Souvent, on disait la maman. Si. Et souvent, on était tellement en train d'idéaliser la maman que quand, après, on était mariés, qu'on faisait un enfant...
Voilà, on ne peut plus se permettre de faire...
On ne touche plus la
femme. C'est ça. On ne peut plus se permettre de faire à notre femme ce qu'on ferait à une autre femme.
Exactement. Donc, c'est là qu'on avait des relations...
c'est ça, extra-conjugales. Et vous voyez, alors... Tout n'est pas dû à l'Oedipe, mais c'est un passage important. Et quelquefois, ces scènes de vie, en tant qu'adulte, peuvent être en rapport avec ces périodes-là. Et d'où il peut y avoir évolution et résolution de problèmes quelquefois quand on est là-dedans.
Et donc, dans ces fameux donjons, Casanova, ou ce que vous disiez en exemple, ce que on disait il y a quelques instants, ça serait quoi ? Donc, du coup, un garçon qui a été fusionnel avec sa maman, ou ça serait quoi, en fait ? Quelle aurait été la conséquence pour en venir à... pour en venir à cette conséquence ?
C'est cet enfant qui n'a pas été, on va dire, repositionné quant au désir qu'il a pu avoir vis-à-vis de sa maman. C'est qu'on a laissé trop désirer sa maman, laissé croire qu'il pouvait peut-être avoir gain de cause.
Oui, mais pourtant, il ne le fera jamais dans sa tête.
Non, mais c'est inconscient.
C'est inconscient. Ça paraît fou parce qu'on se dit, mon Dieu, comment on peut désirer sa maman ? C'est tellement quelque chose, c'est un barrage, normalement, dans nos têtes, de se dire que ce n'est pas pensable. Et pourtant, ça influe dans sa vie relationnelle, sentimentale. C'est fou. Donc, à nous, vraiment, en tant que parents, de vraiment mettre le plus beau cadre, le cadre le plus stable, le plus voilà, parfait. Mais bon, rien n'est parfait dans
non,
la vie.
Non, tant mieux.
Tant mieux, oui. Après, ouais, mais bon, quand on voit les conséquences, Alice, hein,
oui,
hein, mais, et le poids que vous nous faites porter sur les épaules.
Mais justement, alors moi, ces émissions-là et ces thèmes, je ne les fais pas pour que vous puissiez porter un poids. C'est simplement pour que vous puissiez comprendre et vous dire aussi qu'il y a des phases naturelles. C'est plutôt dans le côté déculpabilisant, de dire, voilà, peut-être que mon enfant va avoir des comportements qui me semblent bizarres entre ses 3 ans et 7 ans, par rapport à ce rejet ou par rapport à cette ultra-fusion qu'il peut avoir. C'est surtout pour dire, c'est peut-être pas à cause de vous. C'est un cycle naturel. C'est dans ce sens-là, moi, que je veux transmettre l'information.
Essayez d'enlever un petit peu de culpabilité.
Non, mais c'est vraiment, mais c'est... je le pense sincèrement. Mais c'est aussi dans ce sens-là, surtout, de pouvoir comprendre ce qui se passe et de dire que de toute façon, quoi que je fasse, il doit passer cette période. Voilà, donc,
tout est normal.
Tout est naturel.
Voilà, tout est normal, tout est naturel. Voilà, il n'y a pas vraiment une culpabilité à avoir, nous, en tant que parents, si on est en plein dans cette phase-là, de dire qu'à un moment donné, de toute manière, ça va être naturel que l'enfant va vouloir se positionner à une place qui n'est pas la sienne. Et à nous, en tant que parents, de remettre justement les choses à leur juste place, dans toujours le respect, la bienveillance, l'empathie, tout ça en fait, Alice. Hein.
Tout à fait, mais c'est de ça dont il se joue. Et aussi un petit point que je voulais préciser, tout à l'heure j'ai parlé du complexe de castration, pardon, de la petite fille donc, qui pense avoir perdu son phallus et qui oui. Quelque part, quasiment, pas toute sa vie, mais un grand moment de sa vie va continuer à chercher ce phallus et en général va, elle, pouvoir peut-être sortir de ce complexe-là lorsqu'elle va arrêter de désirer son père inconsciemment et quelque part de pouvoir devenir elle-même maman. Vous voyez, ça se joue de cette façon-là. Tandis que le garçon, on peut dire qu'il a bien passé son Oedipe. Dès lors, lui, alors je vais expliquer, il aura passé son angoisse de castration. Lui, par contre, lui, il aura peur de perdre son phallus. Et c'est pour ça qu'en fonction des tempéraments et des caractères des hommes adultes, on peut se dire, ah ok, lui, il n'a pas encore bien passé, il n'a pas fait son Oedipe comme il faut, parce qu'il a toujours cette angoisse de castration.
Mais c'est tout inconscient, c'est
ça. Ah bah oui, non, mais voyez les histoires de phallus, quand j'ai une grosse voiture, j'ai un gros beau... Voilà, j'ai quelques... Non, mais
c'est pas des caricatures, ça.
Non.
C'est une réalité, ça.
C'est une réalité.
Ah bon. Ah, vous me laissez sans voix, Alice. C'est ça que j'adore avec vous, c'est qu'on on aborde. Parce que là, c'est carrément, quand on disait, c'est voilà.
On a des complexes d'infériorité.
Voilà,
j'ai
vraiment,
autres,
mais... petit zizi, grande voiture. Donc,
moi, c'est pas la vérité que je suis en train de dire. Moi, je parle uniquement, je suis pas factuelle, d'accord? Je parle de complexes d'infériorité, d'angoisse de castration que peuvent ressentir encore certains hommes en tant qu'adultes, ce qui nous amène à dire, nous, qu'ils n'auront pas.
Attention, messieurs, que vous êtes en train de nous écouter dans notre voiture.
Leur complexe d'Oedipe.
Non, mais c'est vrai, non. C'est voilà, non, parce que c'est vrai qu'il y avait la caricature, celle-là, de dire, voilà, grosse voiture et petit reste. Mais là, ça serait vraiment une vraie conséquence, ce que vous dites, Alice?
Bien sûr.
D'accord. Ah non, alors là, franchement.
Finalement, il y a des hommes qui n'ont pas passé ils ont toujours peur, en fait, de perdre leur phallus. Donc, du coup, se doivent de montrer aux yeux du monde qu'ils possèdent le phallus, quelque part.
Donc ça peut se traduire par l'acquisition d'un gros véhicule, une grosse berline,
ça
peut. Ou ça d'autres peut. D'autres choses aussi.
Tout signe extérieur identifié à la virilité, à la masculinité, à la réussite sociale. Vous voyez, ça peut se jouer de différentes façons. Et après, même quelquefois, quand on peut dire... Après, on a ces choix inconscients et ces choix conscients. Mais j'aime aussi un exemple comme ça, caricatural, mais qui peut se jouer de différentes façons. Lorsqu'on est une femme, quelquefois, et qu'on décide d'être camionneuse, c'est quelque part, on est en recherche du phallus, quelque part, on veut montrer aux yeux du monde que peut-être, tu vois, moi, je conduis un gros engin, donc moi aussi, je suis un homme. Et ça peut être lié aussi à cette période-là.
Eh bien, vraiment, c'est fou quand même, parce qu'on n'imagine pas toutes les conséquences que ça peut impliquer, surtout que, voilà, on est dans l'inconscient, et ça peut... Alors vous, j'imagine que ça doit être une étude perpétuelle quand vous devez voir certaines...
Ah, mais de toute façon, c'est une des questions que je me pose quasi... tout le temps à chaque patient. Où est-ce qu'il en est avec son Œdipe ?
Et oui, parce que du coup, vous identifiez ça instantanément, Alice.
Alors,
parce
instantanément,
que... c'est votre priorité.
Ah oui, mais c'est important de le détecter parce que justement, grâce à un travail de psychothérapie ou de psychanalyse, quelque part, avec l'interaction patient et analyste, on peut remettre. En fait, l'Œdipe peut se rejouer avec moi pour justement que ça se régule et qu'il avance après différemment dans la vie.
Justement, comme on est dans les dernières minutes, Alice, quand on a tout cet inconscient qui joue tant dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos relations sentimentales, vraiment, je vois pas, j'ai un peu du mal à dire à nos auditeurs comment ils vont faire pour s'en apercevoir. On a dit quelques briefs tout à l'heure sur des sabotages de relations, sur par exemple, on donnait l'exemple des voitures, etc. Mais de se dire, consulter va nous permettre un petit peu de régler tout cela.
J'ai envie de dire consulter si à un moment donné ça nous pose problème dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, c'est pas une obligation tant que telle.
Pas du tout obligation. C'est si ça me pose problème et si je vois que je tourne en rond par rapport à certaines situations qui se répètent et si ça m'amène à un mal-être ou une souffrance, oui, je vais consulter. Sinon, ne touchez rien. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout va bien. Voilà, on n'est pas.
Bien sûr. Ah non.
C'est pas parce qu'on parle. Voilà. Non, mais ce que je veux quand même être clair avec nos auditeurs, c'est pas parce qu'on aborde tous ces sujets qui peuvent paraître compliqués et se dire finalement, mais on est presque tous concernés, qu'il faut que systématiquement. On consulte.
Ah non, pas du tout. On consulte dès lors qu'on sent qu'il y a une problématique, une souffrance ou un inconfort ou on a besoin d'explications. Voilà, tout simplement.
Voilà,
bien
y a
évidemment.
Pas,
y a non,
pas
non.
Tout. Alors, pour résumer tout ça, Alice, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'on doit aborder
Par rapport à l'Œdipe, non. Comme je dis, ça se fait environ entre 3 ans et 6 ans, ou peut-être entre 4 et 7 ans, sa tendance, comme j'ai évolué. Cette période est phare dans la construction de l'enfant. Acceptant aussi, en tant que parent, que nos enfants aient une sexualité. Ça, on fera un jour une émission là-dessus, sur une sexualité infantile. Et,
c'est des mots qui sont compliqués à entendre, Alice.
Je sais.
Vous nous perturbez trop, Alice, arrêtez.
Et vraiment, le but de cette période, c'est vraiment pour que l'enfant puisse accéder à sa propre identification, on va dire, sexuelle, et qu'il le vive de façon le plus saine, harmonieusement, pour sa vie d'adulte. Tout à fait.
Et oui, donc plein d'implications qui font que, de toute manière, on est les fondations, hein, comme on dit, si l'arbre pousse tordu, c'est nous qu'on doit le redresser, mais bon, là, franchement, non, mais Alice, vous m'avez...
vous êtes fatiguée?
Compliqué la tâche, non, pas fatiguée, compliqué la tâche, vraiment, là, c'est beaucoup, beaucoup de choses, de responsabilités, mais on aime tellement bien faire quand on est parent, on pense surtout bien faire, et que parfois, non, en tout cas... Pas de culpabilité comme d'habitude, on n'est pas en train de vous dire comment refaire votre vie.
C'est bien le contraire, c'est déculpabiliser. S'il y a peut-être une problématique à cet âge-là, c'est peut-être dû à cette période d'Œdipe qui est une phase naturelle.
Voilà, naturelle. Voilà. Et si vraiment c'est bien possible de dire, je ne sais pas qu'on doit consulter, mais si on a des doutes et qu'on ne comprend pas pourquoi l'enfant rejette tel ou tel parent parce qu'il est dans cette période-là.
Tout à fait.
Et que comme vous dites, qui est naturelle, il ne faut pas, je pense, hésiter à appeler...
À faire le point.
Voilà.
Voir si on est réellement dans l'Œdipe. Ou s'il y a autre chose qui se joue, oui, c'est possible de faire un point.
On peut appeler par exemple des spécialistes comme vous et dire voilà, je suis dans cette phase, j'ai constaté ça, et est-ce que ça correspond à une situation, est-ce que je peux être rassurée, c'est bien possible, Alice.
Tout à fait, bien sûr.
Bon, mais heureusement qu'on vous a. Allez, Alice, je vous laisse le soin de rappeler justement toutes vos références afin qu'on puisse aussi bien, comme à vous et comme à d'autres, avoir les meilleurs conseils.
Très bien. Donc, pour me joindre par téléphone, mon numéro est le 06 48 72 79 97. Pour les consultations, cela se passe à mon cabinet de Saint-Cyr-sur-Mer ou mon cabinet d'Avignon. Ensuite, pour tout ce qui est de mon actualité, de mes ateliers et de mes formations, parce que ça y est, je lance ma formation de psychogéologie, vous pouvez retrouver tout cela sur ma page Facebook Alice Lecomte Psychanalyste.
Et bientôt, on va ouvrir une plateforme avec Alice que vous allez joindre 24 heures sur 24 quand on a des problématiques comme les nôtres. Voilà, Alice, on va lancer ce projet.
Si vous voulez.
En tout cas, merci Alice. Très
merci
belle émission encore une fois avec un thème qui paraît si compliqué mais en même temps si essentiel dans la vie et le développement de nos enfants et nous en tant que parents. Et à vendredi prochain pour encore une émission toujours aussi intéressante, Alice.
Tout à fait, à vendredi prochain.
Bonne soirée à vous.
Au revoir.